Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Mi russe, mi fou. C'est ainsi que se présente Dimitrius, le héros de Face aux Styx, le nouveau roman de Dimitri Bortnikov. Russe, lui aussi, et un peu fou également. Exilé à Paris depuis une quinzaine d'années, Dimitri Bortnikov, qui écrit désormais en français, s'est lancé dans une aventure littéraire hors norme avec un récit où il brouille tous les codes narratifs classiques. Roman fleuve à l'image de son titre, Face aux Styx, paru aux éditions Rivage, est autant une expérience de lecture que d'écriture. Un univers foisonnant de métaphores, comme les affectionne l'auteur, car Dimitri Bortnikov, virtuose du crayon, n'a pas non plus la langue dans sa poche, comme vous allez l'entendre tout de suite. Bonjour Dimitri Bortnikov.
Ah bonjour, bonjour.
Face aux Styx, c'est un roman de 749 pages, un torrent de phrases saccadées, un tourbillon d'émotions, un flot de souvenirs, des déambulations géographiques entre la France et la Russie, des allers-retours dans le temps, des images, de l'humour, de la détresse, des humains, des animaux, de l'amour, du grotesque. Bref, une tragique comédie emportée par le souffle du verbe. Est-ce que Rabelais est un auteur qui a pu vous donner ce goût de la vie et ce goût de l'excès ?
Rabelais, Shakespeare. On peut dire que je suis Shakespeare des Schtroumpfs ou Molière des coiffeurs.
Mais Rabelais, donc ?
Rabelais, et encore une fois Rabelais. Vive Rabelais !
Que vous avez lu ?
Très petit. J'ai lu très petit. J'ai mis peut-être une année scolaire pour le terminer. Et à la fin... Quand j'ai fermé le livre, j'étais heureux et aux anges.
Pourquoi ?
Parce que Rabelais m'a libéré. Rabelais a libéré mon verbe.
Vous l'avez lu en quelle langue ?
En russe. C'était merveilleusement traduit.
Oui, donc même en russe, langue a été décorsetée, a été flamboyante, joyeuse.
En russe, vous pouvez faire... Vous savez, le russe, c'est un fouet. Avec le fouet, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez frapper, vous pouvez piquer, vous pouvez, à force de tripoter le fouet, faire approcher les objets qui sont loin. Rabelais, en russe, c'est une sorte de pieuvre. Et c'est une générosité. C'est la générosité du russe qui a rendu Rabelais accessible au russe. Et il faut bâtir une église en nom de Michel Loubimov, qui est le traducteur de Rabelais.
Revenons à ce roman Face aux Styx. C'est Dimitrius qui parle. Dimitrius qui raconte, qui rencontre des gens, qui ressent mille et une choses, qui se souvient. Qui est Dimitrius ?
Vous savez, c'est Catherine, vous savez, c'est très difficile de parler de ce livre. C'est plus facile de trouver un pantalon, vieux pantalon où on n'a jamais pété, que de parler de ce livre, surtout pour un écrivain.
Alors, je reformule ma question. Qu'y a-t-il de Dimitri Bortnikov dans Dimitrius ?
Mais il y a mon expérience personnelle, très petite. Très petite. Bon, vous savez, l'expérience d'un pou sur la tête de Tchingis Khan. Est-ce qu'ils vivent la même chose ? J'accompagne mon personnage et je transpose. J'ai toujours cherché les choses irréversibles, comme la conversion, comme la naissance ou comme la mort. Ces trois choses indicibles devant lesquelles il faut s'arrêter. Et la naissance, on ne peut pas le maîtriser. On est né, quoi qu'il arrive. Si c'est le destin, on est né. Par contre, la mort, on peut la maîtriser. Ça veut dire on peut se préparer, on peut, comme Socrate, c'est mon personnage préféré dans la littérature antique, on peut se préparer, on peut gémir, on peut agoniser, mais on peut être conscient.
Et justement, ici, Dimitrius est aide-soignant à domicile. Donc, il s'occupe de vieilles personnes, mais aussi de personnes qui ont besoin d'assistance, comme Nina, par exemple, qui est handicapée. Mais Dimitrius, il soigne les corps ou les âmes ?
Je ne sais pas ce qui soigne Dimitrius. Moi, je voulais être médecin. Je suis médecin raté. J'ai fait 2 ans de médecine. Je voulais soigner. Ça, c'est sûr. Je voulais pas être écrivain. C'était loin de moi, plus loin que Himalaya. Mais je ne suis bon qu'à ça, peut-être. Toute mon expérience de vie ne consiste qu'à soigner. Si je pas soigné, je deviens taciturne, enragé. J'aime soigner. Vous me montrez un pilouche, un ourson, un pilouche qui a perdu son œil en plastique, je vais le soigner. Je vais lui raconter comment il faut manger, comment il faut boire, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut pas fumer, tout et tout. Et donc le personnage, il faut vivre. Il est rusé, il faut vivre, il faut survivre, et il trouve le travail. Il soigne pas les âmes parce que ce n'est pas un curé, ce n'est pas un pope. Simplement, il a confiance à son destin. S'il ne peut pas être avec ceux qu'il aime, il essaie d'aimer ceux avec qui il se retrouve.
Et en effet, à la fois, il soigne quand même les gens autour de lui, mais il soigne aussi, d'une certaine façon, la mémoire de toutes ces personnes qu'il a aimées, et que le temps de la narration, il ressuscite son grand-père, sa grand-mère, un frère, évoqué brièvement mais néanmoins, son père, des connaissances, des enfants, des nourrissons, voire des bébés qui n'ont pas eu le temps de naître. Beaucoup de morts, donc, je le disais. Est-ce que c'est aussi un roman de paix?
C'est une forme de tranquillité très passagère, puisque, vous savez, après l'enterrement, on va manger un petit 4 heures. Donc c'est une sorte de... Oui, on va manger ensemble, c'est une grande tradition. De toute façon, les mots, la littérature, je fais pas la littérature. Je ne tiens pas à faire de la littérature.
Mais vous écrivez.
Ce n'est pas la même chose. Imaginez une situation. Vous êtes une mouche. Et vous êtes dans une toute petite pièce, et par un miracle, un aspirateur se met en marche. Je ne sais pas par quel miracle. Peut-être vous avez appuyé sur le bouton et l'aspirateur se met en marche. Donc la littérature, c'est l'aspirateur. Par le fait que j'ai écrit et j'ai publié en Russie pour la première fois, j'ai compris que le reste de ma vie ne sera que le battage d'ailes pour échapper
à l'aspirateur.
Voilà. Il faut pas s'éloigner trop loin. Il faut pas attendre que deuxième miracle se produise pour éteindre l'aspirateur. Mais il faut battre des ailes pour ne pas être aspiré par la littérature, pour ne pas être aspiré par les mots, par cette illusion de la consolation par les mots.
Puisque vous faites une métaphore, Dimitri Bortnikov, je vais vous en proposer une autre. Dans la mesure où Dimitrius parle aux vivants comme aux morts, est-ce que c'est lui le guet, ce passage qui enjambe le Styx, le fleuve des enfers, entre les deux mondes?
J'espère que ce roman, en tout cas moi, quand j'ai écrivais pendant 8 ans, ce livre, et ça faisait 3000 pages au départ, je raccourcis jusqu'à 1000 pages. Après, je raccourcis jusqu'à 7 quelques pages, mais on n'est pas une centaine près. Pendant ce travail, pendant 8 ans, j'ai passé par tous les états. Je faisais l'aller-retour sur Styx, je le connais très bien. Je le bouchais d'abord pour le bien remplir. Je le débouchais ensuite pour bien voir ce qui est au fond, dans la vase du Styx. Plus rien ne me fait peur, à part la disparition d'êtres qui me sont plus chers. Il y a 4, 3, pas plus, devant lesquels, devant leur disparition, je serai muet comme un sourd muet. Oui, j'ai fait quelques allers-retours et je rendus à ceux que j'ai aimés l'immortalité.
C'est intéressant parce que je vous parle de Dimitrius et vous me répondez à la première personne du singulier.
Bah, qu'est-ce que vous voulez, vous me parlez à moi.
Dimitrius, c'est vous.
Mmh. Ah bah, s'il y a à côté, moi, un quelqu'un d'autre, là, je pense que j'ai écrit un très grand livre parce que ça fait voir double.
Donc, face au Styx, c'est face à l'enfer. Face à la mort.
C'est face à la vie d'abord. Et c'est face à la mort. Et c'est face à... pas aux enfers, parce que c'est le mot assez...
Galvaudé.
Galvaudé, tripoté, on voit plus rien sur ce monnaie. C'est plutôt face à la mort. Mais à la vraie mort, ça veut dire face à l'agonie. Parce que quand vous êtes devant quelqu'un qui agonise, là, vous sentez la présence surhumaine de quelque chose qui disparaît ensuite, mais en vous disparaît une partie de celui qui meurt. Il apporte quelque chose, il vous prend quelque chose. Mais au lieu de poche vide, vous sentez le plein de la vie, plein de silence, plein de... Vous voyez les choses comme elles sont, vous voyez le monde comme il est, sans vous exciter, sans tomber par terre, ni des tristesses, ni se rouler par terre comme un chien sur la neige fraîchement tombée. C'est juste, c'est le plein, sans se renverser.
C'est le oui.
C'est le oui à la vie, et oui à la mort.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Dimitri Bortnikov, né en Russie mais qui écrit en français. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un roman face au Styx qui vous a demandé 8 ans d'écriture. Et c'est un roman qui dynamite beaucoup de choses, à la fois les frontières ici et là-bas, hier et aujourd'hui, et qui dynamite la langue. Quelques exemples, pas de majuscules à l'intérieur des paragraphes, des points d'exclamation et de suspension à foison, des phrases syncopées, des articles oblitérés. Bref, ça secoue. C'était votre projet, Dimitri Bortnikov, bousculer la narration pour bousculer le lecteur?
Non, c'était pas mon projet. Je voulais pas bousculer qui que ce soit. Je suis un être gentil, bienveillant.
Mais bousculer, ça peut être amical aussi.
Oh, bah là, amical, bousculement d'un russe, d'un ours, amical. Non. Non, je voulais rien bousculer. Je voulais être moins présent qu'un chat errant. Simplement, le projet a demandé. Vous savez, comment, si vous accouchez d'un gargantua, c'était pas votre projet, mais il demande à manger, il demande à boire. Donc, à force d'accoucher un ours, il fallait vivre avec lui. C'est pas le moi qui portait le projet. C'est quelque chose que je peux pas dire. Pas seulement parce que c'est secret. Je peux faire comme si c'était le secret. Gna gna gna, coco, je dirais rien. C'est autre chose que je ne maîtrise pas et qui nous maîtrise tous. C'est l'écriture qui s'était faite toute seule, comme ça. Il fallait juste être présent pour l'écriture. Il fallait être présent. Vous savez, c'est comme la radio. Mon écriture, c'est comme la radio où rien ne se passe, mais elle est toujours allumée. Dès qu'il y a quelque chose, il y a une émission. C'est par l'émission que ça passe. C'est pas par « oui, je décide de faire un livre sur l'amour ». Mon Dieu, c'est loin de moi.
Non, non, c'est pas ce qu'on a dit, en effet. Donc, vous êtes comme dans un état de captation?
On peut dire que je suis comme dans l'état de transe. Un état de transe très particulier, c'est un état. Et je pense que chaque être vivant recherche plusieurs états. L'état d'amour, quand il tombe amoureux. L'état de grâce, qu'elle est au-delà de l'amour de recherche. Ou l'état d'ivresse, premier vers, ou deuxième vers, ou troisième. Mais on cherche quelque chose de très très précis, tous.
Je vous vois beaucoup utiliser votre main pour parler, pour accompagner votre voix, votre propos. Est-ce que dans votre main, il y a aussi quelque chose de l'écriture automatique, parfois?
Non, pas automatique, non. J'essaie d'être un petit peu plus réaliste dans mes livres que j'en suis dans la vie. C'est parce que j'ai deux langues, russe et français. Et même pour une si grande gueule que la mienne, avoir deux langues dans la même bouche, c'est difficile. Donc, il faut parler avec la main aussi.
Deux langues, ça veut dire que ça se bouscule?
Dans ma tête, tout. Il y a tellement d'images, il y a tellement de choses.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous écrivez en français? Pourquoi vous avez fait ce choix?
C'était spontané. J'habite Paris, j'ai vécu en France. Pourquoi? C'est la question de destin. J'habite en France. Maintenant, même mes listes de courses, j'écris en français. Le russe, pour moi, est loin dans ma poche. Mais il est toujours là.
Et que pouvez-vous dire différemment en français que vous ne pouvez pas dire en russe et inversement?
Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se dire. Parce que de toute façon, dire quelque chose qu'on maîtrise, c'est traduire. Même si vous êtes né ici, vous êtes obligé de traduire parce que l'émotion n'a pas besoin de traduction. L'émotion, elle peut passer par le regard, par la main, par la mer, par une rivière. L'émotion, elle est intraduisible. Dès que le mot se met en rut, dès que la langue se met à dire « Oui, l'émotion, viens, je vais te faire passer. » Tu vas traverser cette rivière et tu vas être aimé et accepté. C'est foutu. Si je pouvais écrire en braille, ce serait parfait.
À la fin, Dimitrius retourne brièvement en Russie. Il se demande, ou plus exactement, on lui demande si il ne pourrait pas rester là. Pourquoi pas? Bon, sauf que son fils et petit ourson l'attend en France. Et vous, Dimitri Bortnikov, est-ce que vous avez eu la tentation de retourner dans votre pays?
Oh, les tentations, je n'ai eu beaucoup.
mais, alors celle-ci en particulier?
Mais celle-ci, non. Je pense que c'est la seule tentation dont Dieu ne s'est pas occupé. Non.
Pourquoi? Non. Parce que vous êtes heureux ici, tout simplement?
Parce que je suis avec les gens que j'aime. Et je préfère avoir les gens que j'aime à côté de moi que loin de moi. La Russie de mon enfance n'existe plus. Il n'y a que les tombes. Il y a ma tante encore. Mais sinon, il n'y a que des tombes. Des tombes, des forêts, des tombes, des taïgas, des tombes en Russie.
Donc c'est l'écriture aussi qui vous permet de faire ce voyage intérieur en Russie sans y retourner physiquement?
Oui, parfois c'est mieux de faire bouger la tête sans faire bouger le cul, parfois, oui. En plus il fait froid là-bas.
Mais ici aussi. Moment.
Oh non, pour moi ici ça c'est... Les ours, on se réchauffe dans les frigos.
Merci beaucoup Dimitri Bortnikov.
Merci
à vous. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Face aux Styx, qui est apparu aux éditions Rivage.
Idée. Le philosophe est...